Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Histoire au quotidien. Nous continuons notre thématique aujourd'hui sur la gallo-romanité et sur le processus de romanisation des Celtes du territoire gaulois. Or, la romanisation d'un territoire, en tout cas chez les Romains, passe souvent par un élément structurant qui permet à la fois la diffusion des informations, le déplacement des marchandises, les mouvements de l'armée et des voyageurs. Cet élément qui structure le paysage et qui permet la gestion d'un territoire, la route. Les voies romaines sont célèbres. Les Romains ne sont pas les inventeurs des voies romaines. Les Perses, les Égyptiens, les Grecs ont également mis en place des structures de communication. Mais aucun de ces peuples n'a poussé aussi loin l'efficacité et l'organisation d'un réseau routier. Les voies romaines, on peut le dire, font partie de l'ADN de l'État romain, et ce depuis les débuts de la République romaine. Pour preuve, la rédaction de la loi des 12 tables qui fut rédigée en -451. Dans cette loi, il est question justement de route, de largeur de chemin, de largeur de virage, et puis aussi de quelques règlements concernant les bas-côtés. Vous le voyez, gérer un chemin intéresse les Romains depuis bien longtemps. Néanmoins, la mère des voies romaines, le prototype de la voie romaine, sera construit par les Romains bien plus tard, en -312, soit 150 ans après la rédaction des 12 tables. Elle porte le nom de Via Appia, justement de son, on va dire, créateur, de celui qui l'a instauré, Appius. Elle est encore aujourd'hui foulée par de nombreux touristes à Rome. À l'apogée de l'Empire, on estime le linéaire, écoutez bien, des voies romaines à environ 320 000 km, enfin, voies romaines tout confondues. Un chiffre considérable pour l'époque, mais qui ne peut être comparé au linéaire routier des pays développés, puisque si on prend le réseau routier français, il est environ 1 million de kilomètres. Néanmoins, le chiffre est quand même d'importance. Intéressons-nous au réseau routier mis en place par les Romains en Gaule. Nous l'avons vu dans une émission précédente, la première des voies romaines mises en place par les Romains fut la Via Domitia. Elle était longue d'environ 700 km, avec la conquête de la Gaule par Jules César et surtout avec l'organisation de la Gaule en province par Auguste, les voies romaines allaient se développer dans la Gaule chevelue. À ce point de notre émission, il faut préciser que les Romains n'ont pas systématiquement inventé des axes de communication. En effet, la plupart du temps, comme pour la voie héracléenne en Narbonnaise, ils se sont appuyés sur des chemins préexistants. Jules César lui-même, dans la guerre des Gaules, évoque la rapidité avec laquelle ses légions ont progressé sur le sol gaulois grâce justement à un réseau routier important et performant. En Gaule, à l'apogée de la présence romaine, on estime le linéaire routier romain à environ 17 000 km. Dès la réorganisation territoriale de la Gaule par les Romains, des voies romaines furent mises en place. Ces voies romaines sont appelées en Gaule Via Agrippa. En fait, ce nom ne désigne pas une voie, mais bien un réseau développé sous la direction d'Agrippa. Cet homme fut un général et homme politique de toute première importance. C'est un ami d'enfance d'Octavius, le futur empereur Auguste. Toute sa vie, il sera fidèle à Auguste et fut un bâtisseur, gendre et héritier présomptif de l'Empire. Agrippa fut de tous les combats militaires et politiques. Et il est à noter également qu'Agrippa se vit confier par Auguste l'organisation de Colonia Augusta Nemosus. En dehors de son activité à Nîmes, Auguste lui confia également l'organisation des Gaules, et c'est lui qui fit construire un réseau routier qui avait pour centre le site de Lugdunum. Le géographe Strabon nous en fait une description sommaire. Agrippa a choisi Lugdunum pour en faire le point de départ des grands chemins de la Gaule, lesquels sont au nombre de 4. Et aboutissent le premier chez les Santons, en direction de Saintes et en Aquitaine, le second vers le Rhin, qui plus tard ira jusqu'à Cologne, le troisième en direction de l'océan, et le quatrième dans la Narbonnaise ou à la côte massaliotique, ou si vous préférez, la côte sous le contrôle de la cité marseillaise. Enfin, suivront d'autres voies romaines plus tard, qui n'auront pas uniquement d'ailleurs comme point central Lugdunum. En effet, il y avait à Bagaco Nervio, l'actuel Bavay, dans le département du Nord, un carrefour de voies romaines vers la Belgique. Sans oublier une voie romaine du littoral qui partait de Bordeaux et qui allait jusqu'en Espagne à Estorga. À ce point de notre émission sur les voies romaines en Gaule, il nous faut aborder les différents statuts des chemins romains dans l'Empire. Il y avait trois statuts. Le plus important, les voies publiques, les voies principales, que l'on pourrait comparer, et aujourd'hui on exagère quand même, à nos autoroutes actuelles. Ce sont les grandes voies de l'Empire, les artères maîtresses du réseau routier, reliant les grandes cités entre elles. Ces voies publiques sont également appelées via praetoria ou via militares. C'est l'État qui pouvait en prendre en charge le financement et leur construction. Mais une contribution était toutefois exigée des cités et des propriétaires des domaines traversés. Il y avait aussi les via vicinales. Elles s'embranchent à partir justement des grandes voies principales et elles permettaient de relier ainsi entre eux les différents vici, c'est-à-dire un vicus étant un gros bourg, d'une même région ou d'un bourg vers une voie publique, une voie principale. Elles sont pour la plupart à la charge des magistrats des pagis, des petits villages. Elles constituent bien évidemment la majorité des voies du réseau et leur largeur moyenne était d'environ de 4 mètres. Enfin, pour terminer, il y avait les via privatae, les voies privées. Elles reliaient les grands domaines, les villas, à leurs terres, dessertes agricoles, ou à des via vicinales qui, plus tard, elles rejoignaient des voies publiques, les grandes voies principales. Ces voies privées étaient réservées à l'utilisation seule du propriétaire qui les finançait en totalité et les entretenait. On pouvait parfois les emprunter. Dans ce cas, leur utilisation pouvait être payante. Vous le voyez, c'est un réseau complexe, bien organisé, hiérarchisé, qui finalement irriguait le territoire gaulois des justement déplacements, des communications, que ce soit d'informations militaires ou de marchandises.